Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 16 juillet 2024. Il est 5h30 temps universel, voici le sommaire.
Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump.
Présidentielle américaine du 5 novembre 2024, l'ancien président Donald Trump, officiellement désigné candidat du Parti républicain. Son rival Joe Biden s'affiche en candidat combatif sur la chaîne NBC pour tenter d'éteindre les doutes sur sa santé et se poser en président rassembleur. Présidentielle au Rwanda, le président sortant Paul Kagame largement en tête avec 99% des voix sur 79% des bulletins dépouillés. En RDC, deux jeunes enfants et deux adolescents meurent dans un bombardement lors de combats entre l'armée et la rébellion du M23. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yakuba Ouedraogo. Mais pour commencer, le journal. On commence par l'actualité américaine. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est officiellement le candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre prochain. Les délégués du parti l'ont désigné lors de la convention qui se déroule à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin. Les précisions avec notre envoyé spécial sur place, Dilly Dico.
Donald Trump a fait sa première apparition publique à Milwaukee lundi soir, avec un bandage à son oreille après avoir été touché par une balle lors de la tentative d'assassinat samedi en Pennsylvanie. Il est entré sur la scène du centre de convention Pfizer sous les applaudissements d'un public ému et de ses proches pour rejoindre le sénateur J.D. Vance. Il s'agit de leur première apparition ensemble suite à l'annonce plus tôt dans la journée que le jeune sénateur de l'Ohio serait son colistier pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. L'influenceuse et modèle afro-américaine Amber Rose, connue pour avoir été la compagne du rappeur Kanye West, a été la première personne à prendre la parole pour expliquer comment elle est récemment devenue républicaine après avoir, dit-elle, fait ses recherches sur Donald Trump et exhorté les personnes indécises à faire de même. Sean O'Brien, le président des Teamsters, un important syndicat de travailleurs américains, a endossé la candidature de Donald Trump. Au cours de la journée de lundi, l'ancien président Trump a officiellement reçu la nomination des délégués républicains pour devenir le candidat républicain à la présidentielle et annoncer l'identité du potentiel vice-président des États-Unis. La seconde journée promet d'être tout aussi intéressante puisqu'il est envisagé que Donald Trump prenne la parole mardi soir pour la première fois depuis les événements de samedi. Dilly Dico, VOA Afrique, Milwaukee.
Merci Dilly. Donald Trump a donc choisi comme colistier M. J.D. Vance. Le sénateur de l'Ohio pourrait ainsi devenir le vice-président des États-Unis en cas de victoire de Donald Trump en novembre prochain. Un choix dont se félicitent les partisans de M. Trump comme Junior Bonpetit, militant républicain et fondateur du mouvement Congolese for Trump.
Le choix de J.D. Vance, c'est le choix de l'avenir. C'est un jeune, il a 39 ans, il est très intelligent, il a un parcours très élogieux, c'est un juriste, il a fait de très bonnes études à Yale. Et cette combinaison avec le président Trump, ça sera vraiment quelque chose de fort, parce que c'est quelqu'un qui comprend et qui incarne les valeurs de MAGA, Make America Great Again, et après les 4 ans de Donald Trump, c'est lui qui prendra la relève, le successeur de Donald Trump pour continuer, pérenniser la vision de Donald Trump. Et vous voyez la combinaison, la synergie entre les deux générations, lui qui a 78 ans et l'autre à 39 ans. Donc c'est vraiment travailler vraiment cette synergie-là et passer les relais à la génération suivante pour continuer. C'est l'exemple à suivre et même pour l'Afrique et d'autres continents, c'est l'exemple à suivre et travailler de la synergie au lieu d'avoir le conflit des générations.
Junior Bonpetit, militant républicain et fondateur du mouvement Congolais for Trump. Pendant ce temps, le président Joe Biden s'y est affiché en candidat combatif lundi dans un entretien à la chaîne NBC pour tenter d'éteindre les doutes sur sa santé et se poser en président rassembleur. Mon acuité mentale est sacrément bonne, a-t-il assuré dans cette interview programmée la semaine dernière après son débat désastreux face à son rival républicain pour la Maison-Blanche. Le président s'est dit prêt à un nouveau débat en septembre, comme prévu avant l'élection de novembre. Je ne prévois pas d'avoir une autre performance de ce niveau, a insisté M. Biden. Le président répète à l'envi qu'il ira jusqu'au bout, ignorant les appels de son camp, de la presse ou d'Hollywood à se retirer. Et sous pression, après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, le prestigieux Secret Service, chargé de la protection des personnalités américaines, a affirmé hier lundi qu'il collaborerait pleinement à l'enquête indépendante devant examiner comment un tireur a pu se retrouver aussi près de l'ex-président Jacques Aristide.
Le Secret Service travaille avec toutes les agences locales, étatiques et fédérales concernées pour comprendre ce qui s'est passé, la manière dont cela s'est passé et la façon dont nous pouvons empêcher qu'un tel événement se reproduise, a dit dans un communiqué sa directrice Kimberly Chittle. Nous comprenons l'importance de l'examen indépendant annoncé par le président Biden et nous y participerons pleinement, a-t-elle ajouté, précisant qu'elle collaborerait également avec les commissions compétentes du Congrès des États-Unis sur le sujet. Le président Joe Biden a aussi demandé à la patronne du Secret Service, dont les agents d'élite sont chargés notamment de la protection des présidents et anciens présidents, de passer en revue toutes les mesures de sécurité pendant la convention républicaine à Milwaukee. Le mystère règne toujours sur le mobile de l'assaillant, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, qui a été abattu. Donald Trump a été blessé lors des tirs samedi en Pennsylvanie et a dit avoir eu le haut de l'oreille transpercé par une balle. Un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, c'est le Rwanda où un nouveau plébiscite se dessinait lundi pour Paul Kagame. Le président sortant était en tête de la présidentielle avec un score de 99% des voix, Lionel Gaïma.
Selon les résultats partiels lus à la télévision nationale par la présidente de la commission électorale, Oda Gasinzigwa, sur 79% des bulletins dépouillés, le président Kagame obtenait 99,15%. Ses adversaires, le leader du seul parti d'opposition autorisé, Frank Habineza, et l'indépendant Philippe Mahimana, obtenaient respectivement 0,53% et 32% des voix. Si cette tendance se confirme, Paul Kagame pourrait réaliser un score encore supérieur à ses 98% de la présidentielle 2017. Paul Kagame a d'ores et déjà remercié les Rwandais dans un discours depuis le siège de son parti, le Front Patriotique Rwandais. Les résultats qui ont été présentés indiquent un score très élevé. Ce ne sont pas que des chiffres, même s'il s'agissait de 100%, ce ne sont pas que des chiffres. Ces chiffres montrent la confiance et c'est ce qui est le plus important, a-t-il déclaré. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet, avant la proclamation des résultats définitifs le 27 juillet.
En RDC, deux jeunes enfants et deux adolescents sont morts hier dans un bombardement dans l'Est lors de combats entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Eddy Isango.
Le bilan est donné par le commissaire Paulin Ilunga, commandant de la police de Borémana. Une source hospitalière indique plutôt qu'il y a eu en plus 5 blessés graves. Une maman et son enfant de 4 ans sont parmi les blessés, et selon le commissaire Paulin Ilunga, qui soutient que l'obus est venu des collines où se trouve le M23. Innocent Mwito Ofu Mumbara, président de la société civile de la localité, précise de son côté que deux enfants d'une même famille figurent parmi les morts. Ils étaient âgés de 2, 3, 16 et 18 ans, affirme le commissaire Ilunga. Une trêve humanitaire annoncée le 5 juillet par les États-Unis était censée durer jusqu'au 19, mais n'a pas tenu une semaine. Des combats ont notamment éclaté vendredi matin à environ 70 km au nord-ouest de Goma, entre les rebelles et des groupes armés associés à l'armée congolaise. Le M23, appuyé par des unités de l'armée rwandaise, s'est emparé depuis fin 2021 des vastes pans des territoires du Nord Kivu, allant jusqu'à encercler presque entièrement la capitale provinciale, Goma. Ils se sont emparés de plusieurs villes du territoire des Lubero, dans le nord du Nord Kivu, à la faveur de la débâcle de l'armée congolaise et de ses milices supplétives. Peu de 50 militaires ont été condamnés à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi.
Au Mali, un proche du célèbre imam Mahamoud Diko a été incarcéré hier lundi à Bamako pour opposition à l'autorité légitime. Trois jours après son interpellation, Youssouf Daba Diawara était le coordinateur général de la coordination des mouvements, association de sympathisants de l'influent imam Mahamoud Diko, dissoute depuis avril par les colonels au pouvoir au Mali depuis 2020. Et puis l'armée indienne est à la recherche ce mardi des rebelles au Cachemire sous administration indienne après que des soldats indiens ont été grièvement blessés lors de violents échanges de tirs, les médias indiens faisant état de 4 morts. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Le gouvernement kényan veut réduire les dépenses de 1,9% en 2024-2025 et creuser le déficit budgétaire à 3,6% du PIB dans un budget révisé, a déclaré le Trésor. Les dépenses courantes devraient diminuer de 2,1% et celles de développement de 16,4%. Par contre, le régulateur de l'énergie a augmenté la taxe sur l'entretien des routes à 25 shillings par litre de carburant contre 18 shillings auparavant, malgré le retrait de la loi sur la hausse des taxes. Shell investira dans la construction d'une installation d'approvisionnement en gaz au Nigeria pour alimenter une usine d'engrais et de pétrochimie appartenant à l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a annoncé la société. La nouvelle installation fournira 2 831 700 m3 standard de gaz par jour du champ Disseny à l'usine de Dangote pendant 10 ans.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Rebondissement dans l'affaire de la suspension du capitaine des Aigles du Mali.
Oui, certains des coéquipiers d'Amari Traoré, suspendus par la Fédération malienne de football, lui apportent leur soutien. Nous retrouvons à Bamako notre correspondant Siaka Traoré.
Ce ne sont pas des moindres. Il s'agit de Boubacar Kiki Kouyaté, défenseur, Mohamed Camara et Amadou Aïdara Doudou, tous des milieux de terrain. Ils ont clairement annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils portent à la connaissance de la Fédération malienne de football qu'ils se mettront en retrait de la sélection nationale jusqu'à la levée de la suspension de leur coéquipier et capitaine des Aigles. L'on se rappelle, Hamari Traoré avait, au mois de juin dernier, dénoncé sur les réseaux sociaux ce qu'il a qualifié de mauvaise gouvernance du football malien. Et d'ajouter, si la situation ne change pas, lui et ses coéquipiers se réserveront le droit de ne pas honorer la sélection nationale pour les prochaines échéances. Des propos qui lui avaient valu une demande d'explication de la part du comité exécutif de la fédération. Hamari ne s'était pas présenté. Ensuite, toujours au mois de juin, plus précisément le 27, la fédération lui a suspendu à titre conservatoire. Cette suspension a été diversement appréciée par le public sportif malien. Voilà que le vendredi 12 juillet 2024, les réseaux sociaux sont inondés de messages des trois joueurs de l'équipe nationale précédemment citée. La question qu'on se pose, jusqu'où ira ce bras de fer entre fédération et joueurs de l'équipe senior? Les supputations vont bon train chez les supporters des Aigles du Mali, surtout à l'approche des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en septembre prochain. Sans nommer la crise au sein de l'équipe nationale A de football, le ministre malien des Sports, Abdoulkassim Fomba, a pour sa part tenté de calmer les ardeurs lors d'une cérémonie de l'Association des journalistes sportifs du Mali ce samedi à Bamako. À en croire le premier responsable du département des sports, il entend initier dans les meilleurs délais une table ronde avec les anciens dirigeants et autres acteurs de football pour en débattre afin de trouver une solution. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
L'AMA prolonge la suspension du seul laboratoire accrédité d'Afrique.
Le seul laboratoire de dépistage accrédité d'Afrique reste suspendu pour 6 mois de plus, soit jusqu'en mars 2025. L'annonce est faite par l'Agence mondiale antidopage. Le gendarme mondial de l'antidopage avait suspendu l'accréditation du laboratoire sud-africain Bloemfontein en mars dernier en raison de multiples non-conformités aux normes internationales. Sur la base de la recommandation d'un groupe d'experts, l'AMA a confirmé dans un communiqué la prolongation de la suspension jusqu'au 1er mars de l'année prochaine ou jusqu'à ce que les exigences soient satisfaites. L'AMA a cité des enjeux de non-conformité en lien avec les documents techniques et au maintien de la restriction d'analyse.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Gabon, les commerçants se disent asphyxiés par la multiplication des opérations de recouvrement des taxes, une fiscalité au cœur de récurrentes tensions entre opérateurs économiques et les agents des administrations déployés sur le terrain. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Eric, pâtissier de 28 ans, connaît la réalité des prélèvements de taxes sur le marché. Il a fini par s'y habituer.
C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais après, ça devient quelque chose avec lequel on s'habitue. Quoi.
Donc vous n'avez pas de choix.
On n'a pas le choix, mais en même temps aussi, on dit que ça fait tourner l'économie. C'est un mal nécessaire, moi je me dis. Quoi.
Pourtant, les plaintes d'opérateurs économiques contre la parafiscalité sont légion au Gabon. Propriétaire d'une épicerie, Honorine dénonce le côté pervers de ces multiples taxes journalières.
Tu peux vivre ça même trois fois dans la même journée. Et vraiment, récemment, ça devient vraiment très, c'est très récurrent. Chacun vient, il va te dire non, ça c'est domaine communal. L'autre va venir, il va te dire non, nous venons pour l'hygiène. L'autre va te dire non, nous venons pour, par exemple, vérifier les prix et tout ça. Donc vraiment, c'est compliqué. Dans tout ça, il faut toujours donner quelque chose. Dans le cas contraire, ils vont te dire non, il faut aller payer au trésor. Oh non, on va te donner une amende, tu vas aller payer et tout ça. Et c'est vraiment compliqué. Moi, je suis gabonaise, mais même malgré ça, ils n'ont pas en fait besoin que tu sois gabonaise ou pas.
Les opérateurs économiques sollicitent l'intervention du gouvernement pour harmoniser les taxes parafiscales, selon Ibrahim Restaurateur. Le syndicat de commerçants a presque perdu ce combat.
Le syndicat, ça sera important devant eux. Donc c'est un sérieux problème sérieux par semaine. Ça dépend. Il y en a qui vient 50 000. Toute personne qui vient, pas moins de 50 000. Plus de 50 000, 50 000 francs. Donc vraiment, ça traumatise le commerçant. Voilà. Et ça agit beaucoup sur le commerçant parce qu'il y a les papiers à fournir. Donc le papier, quand tu as les papiers, tu as des problèmes. Quand tu n'as pas de papier, tu as des problèmes. Donc c'est vraiment décevant.
Ouattara, vendeur d'habits au Carrefour Léonba, redoute une opération de racket derrière ses recouvrements.
Pour être vraiment sûr, du 1er au 30, c'est la même personne qui doit venir prendre l'argent des taxes. Mais ce n'est pas les mêmes gens du 1er au 30. Aujourd'hui, c'est une autre aide. Aujourd'hui, c'est un visage qu'on voit, demain, c'est un autre. Après, demain, c'est un autre. Finalement, on est perdu. Donc voilà pourquoi nous, on n'est pas sûr que c'est pas l'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État.
Selon les économistes, la parafiscalité favorise les pressions inflationnistes dans l'économie avec la hausse des prix des produits. Conséquence immédiate, la lutte contre la vie chère, exprimée au sommet de l'État, court le risque de rester un vœu pieux. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Au Sénégal, alors que la saison des pluies démarre à peine, c'est déjà la grande inquiétude dans certains quartiers de la capitale Dakar. Notre correspondant Wahani Johnson Sambou s'est rendu dans un quartier de la banlieue. Voici son reportage.
Ici, je ne parle même pas de pluie. Dès que les nuages se forment, c'est la grande inquiétude chez tout le monde. Les gens sont très fatigués. Hassan Diallo habite à Keur Massar, une commune populeuse de Dakar, la capitale. Comme beaucoup d'habitants de la localité, il subit de plein fouet la furie des eaux de pluie. Un petit tour dans le quartier permet de constater l'ampleur du désastre. C'est un ami à moi qui habite cette maison avec sa famille, mais là ils ont déménagé. Ils vont revenir pendant la saison sèche parce qu'ils savent que dès qu'il commence à pleuvoir, ils risquent de perdre beaucoup de bagages. Ici, la saison des pluies rime avec inquiétude. Des maisons abandonnées, des routes inondées et des bassins d'évacuation témoignent du sinistre qui se dessine dans ces lieux. Une première pluie est déjà une angoisse insoutenable pour Malin Sambou, habitant du quartier.
Je peux dire que le moral n'est pas encore bon. On a cru que cette année-ci, nous allons nous débarrasser définitivement de l'inondation, mais jusqu'à présent, on constate que c'est la même formule d'évacuation des eaux qui a été maintenue. Donc, avec l'annonce de la météo, que la pluie qui va s'abattre cette année-ci sera plus intense que les années précédentes. C'est une inquiétude pour les habitants de Kamoussa.
Des habitants qui ne savent toujours pas à quelles autorités se fier. Car les inondations ont toujours été un vrai casse-tête pour les régimes qui se sont succédés. Si le nouveau suscite quelque peu l'espoir, il compte plus sur la solidarité. Hassan Sy, président des jeunes du quartier.
Heureusement qu'on a des jeunes qui sont dynamiques, parce qu'il y a des jeunes qui, même leur maison, ne trouvent pas d'eau, mais ils vont venir soutenir celles-ci qui n'ont pas de l'eau.
Donc au-delà des autorités, vous comptez sur la solidarité dans le quartier?
Oui, surtout ça. Mais ça ne suffit pas. On veut que l'État vienne ici pour voir, parce qu'ici l'eau fait beaucoup de dégâts ici.
Et le calvaire de ses habitants ne fait sans doute que commencer ici. Tout le monde prie que la météo se trompe dans ses prévisions. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Le Bénin veut-il déstabiliser le Burkina Faso? Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina, a lancé de graves accusations contre les autorités de Cotonou le 11 juillet dernier. Des accusations qui s'inscrivent dans un contexte régional difficile, marqué par des suspicions similaires, agitées par d'autres pays du Sahel. Comment les Béninois vivent-ils cette situation? La réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le Bénin serait devenu un danger pour ses voisins. À en croire les déclarations du président burkinabé, le Bénin abrite deux bases militaires françaises. Pour Fadel, étudiant en relations internationales, le Burkina Faso n'a qu'à exposer les preuves dont il dispose.
En vrai, ce sont des déclarations sans fondement, puisque jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il n'étaye par des preuves tangibles ce qu'il a avancé, ce sont des affabulations. Donc moi, je pense que ces propos n'ont pas lieu d'être, parce que le Bénin, à ce que je sache et à ce qui a été dit dernièrement par les autorités étatiques, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Moi, je pense que ce ne sont pas des propos vérifiés.
Le capitaine Ibrahim Traoré a précisé que ces bases serviraient non seulement à l'équipement et à la formation de groupes qualifiés de terroristes, mais aussi à leur fournir des soins médicaux. Pour Alphonse Dorégo, le Burkina Faso monte la tension avec ce type de déclaration.
Je pense que c'est un discours heurtant, c'est un discours qui ne consolide pas, c'est un discours de tension, à mon humble avis.
Eux veulent qu'on coopère avec la Russie. Est-ce que le Bénin s'en est opposé? Non, aucunement. Donc, chacun a son coopérant, chacun a son partenaire d'affaires, et puis ça passe.
Pour Sylvanus Tantan, les pays sahéliens veulent tenir le Bénin pour responsable de la difficulté sur le plan sécuritaire.
Les pays sahéliens en ont après le Bénin. Parce que si après le Niger, c'est le Burkina qui nous attaque, il faudra s'attendre à ce que le Mali ou bien tout autre pays encore nous attaque. Et cette histoire de base militaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si le président burkinabé juge que Bénin abrite vraiment une base militaire française ici, je pense que c'est à eux de nous démontrer vraiment qu'il y a une base militaire ici. Il a bien dit qu'il a les preuves. Donc il n'a qu'à sortir les preuves pour que nous sachions qu'il y a vraiment des militaires français ici sur le sol béninois.
Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léon-Dorumbedi a de son côté répondu aux accusations du président burkinabé.
Il n'y a aucune base militaire française au Bénin, aucune. À Kandi, nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités de notre. Je suis formel. Nous n'avons aucun accord de coopération militaire avec la France qui institue une base militaire française au Bénin. Il n'y en a pas.
En visite officielle au Bénin, il y a quelques mois, le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Buka, a été formel sur la question.
Non, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin.
Bénin. Et il n'y a aucune velléité de l'armée française d'installer une base ici permanente. Et il n'y a pas de demande des forces armées béninoises qu'il y ait des missions permanentes qui stationnent ici. Et notre coopération, elle fonctionne très bien sur ce mode-là.
Pour son homologue béninois, le général Fructueux Baguidi, cela n'est même pas envisageable.
La réponse est non. Parce qu'une base militaire, ça se décide à deux. Le Bénin a reçu une demande, le Bénin n'a pas fait de demande. Non, il n'y a pas de base militaire au Bénin. Non, il n'est pas envisagé la mise en place d'une base militaire au Bénin.
De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Coup de projecteur sur la tentative d'assassinat samedi dernier de l'ancien président américain et candidat républicain Donald Trump, deux jours avant l'ouverture de la convention de son parti et à moins de quatre mois de la présidentielle. L'actuel chef de l'exécutif, le démocrate Joe Biden, lui aussi engagé dans la course à la Maison Blanche, a appelé au calme et à l'unité dans une Amérique de plus en plus polarisée. Cet attentat raté aura-t-il un impact sur le scrutin de novembre? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Plus de 9 millions de Rwandais étaient attendus aux urnes lundi pour les présidentielles et législatives. Opposé au président sortant ultra-favori Paul Kagame, deux autres candidats, Philippe Mpayimana et Franck Habineza, se déclarent tout de même optimistes. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Des décorations particulières donnant l'impression d'une grande fête s'observaient sur les sites électoraux à travers le pays. Dans le calme, de longues files d'attente se manifestaient déjà avant l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures locales, soit 5 heures temps universel. Le candidat indépendant Philippe Mpayimana était au camp Kigali, en plein centre de la capitale. Candidat malheureux en 2017, Mpayimana a émis le vœu d'une alternance politique.
Oui, c'est ma deuxième participation aux élections présidentielles. Ça doit être différent, j'attends la différence, j'attends l'évolution, j'attends un score différent, j'attends que vraiment on constate que la population rwandaise, le peuple rwandais est prêt à réaliser une alternance politique à la tête du pays. Et si ce n'est pas aujourd'hui, il faut au moins qu'on voit que c'est en cours de venir.
Son sentiment d'optimisme a été affiché aussi par le président du Parti des Verts, Franck Habineza, qui avait aussi brigué la présidentielle en 2017.
À vrai dire, notre période électorale a montré que la démocratie évolue au Rwanda. Nous avons fait le tour du pays, la population nous a manifesté sa joie, elle nous a promis de voter pour nous. C'est vraiment différent des élections de 2017. Je souhaiterais que notre pays ne retourne pas en arrière. C'est vraiment satisfaisant. Et surtout, la commission électorale a tout bien préparé. Je suis optimiste à 55%. J'espère remporter la présidentielle et obtenir au moins 20 sièges au Parlement.
Aux environs de 13 heures locales, le président Paul Kagame a lui aussi voté à Kigali, près de son domicile. Au terme de sa campagne électorale, le président Kagame avait déclaré que sa victoire est assurée. Ces élections sont suivies par différentes missions africaines d'observation, notamment la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'Union africaine et la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Moses Frank Moyo représente la Conférence internationale de la région des Grands Lacs.
Rwanda is a member of the Great Lakes region.
Le Rwanda est membre de la région des Grands Lacs. Le rôle du Rwanda dans la stabilisation de la région est essentiel. Sa stabilité dit beaucoup pour tous les pays de la région. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés, non pas pour interférer dans ses affaires internes, mais pour nous assurer que ces élections sont libres et transparentes.
That election is free, it's fair.
D'après la commission électorale, les premières tendances ne seront pas connues avant 22 heures locales, soit 20 heures temps universel. Jean-Thomas Sénéman Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le Monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24 sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.